Philippe Meyer, bonsoir.
Bonsoir Pierre Gandis.
Philippe Meyer, vous êtes le président du Bnei Brith France et avec vous, nous allons revenir sur plusieurs sujets d'actualité. On va commencer par l'Iran, tir à balles réelles, enlèvement de manifestants blessés sur leur lit d'hôpital, aveu forcé à la télévision. Face à la grogne des Iraniens qui ne faiblit pas maintenant depuis 11 jours, le pouvoir iranien réprime sans retenue. Hier, c'est au bazar de Téhéran, poumon économique de la capitale et berceau du soulèvement, que s'en sont directement pris les sbires du régime des Mollahs. Les forces de sécurité ont fait soudain irruption dans plusieurs boutiques de la section historique de Sareh el-Meli, en passant à tabac des commerçants grévistes, mais aussi des passants sans lien direct avec les manifestants. En province, la répression est particulièrement féroce, notamment dans le sud-ouest du pays, où la colère bat son plein. Et comme toujours, le régime des Mollahs considère comme une menace les déclarations du président américain et du premier ministre israélien concernant les manifestations en cours. Donald Trump a menacé ces derniers jours d'intervenir militairement en Iran si des manifestants étaient tués, tandis que Benjamin Netanyahou leur a apporté son soutien. Et cela me fait penser, Philippe Meyer, à certains régimes de pays arabes qui accusent toujours l'extérieur d'être responsable de ces échecs intérieurs.
Évidemment, Pierre, ce qui se passe en Iran, comme vous le dites, nous rappelle d'autres exemples de révolte des peuples contre leur régime sanguinaire. Et ce qui se passe à Téhéran, et comme vous l'avez rappelé, dans les principales villes iraniennes depuis presque deux semaines maintenant, est évidemment un événement majeur, historique. Alors on verra bien sûr comment la situation va évoluer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais d'ores et déjà, ce mouvement est évidemment à soutenir sans faille. Vous savez, contrairement à ce que disent certains trolls de LFI et leurs gourous, ce n'est pas contre la vie chère que le peuple se soulève en Iran. En tout cas, c'est pas uniquement contre la vie chère, c'est bien sûr contre le régime islamiste des Mollahs. Et il est tout à fait essentiel de soutenir le peuple iranien, les femmes et les hommes en Iran. Rappelons-nous du mouvement Femmes Vie Liberté, il y a quelques mois, quelques années, qui avait déjà lancer un petit peu ce mouvement. Il est essentiel de les soutenir dans ce soulèvement, dans ce vent de liberté qui souffle en Iran et qui pourra changer bien sûr l'Iran, on le souhaite pour le peuple iranien, mais au-delà, changera la région, qui changera le monde. Vous savez, face à la barbarie, face à la répression dont vous parliez Pierre, face à la haine des Mollahs qu'on observe depuis maintenant 1979, hein, donc ça fait quand même plusieurs décennies qu'on voit ce qui se passe en Iran, ce courage qu'on voit sur les réseaux sociaux, qu'on voit sur certaines vidéos, ce courage des femmes et des hommes du peuple iranien est réellement un exemple, une source d'énergie pour chacun d'entre nous. Vraiment, quand on voit ce qui se passe, c'est une bouffée d'oxygène, c'est un exemple de courage. Il faut que chaque jour, ici en France, comme partout dans le monde, nous crions au peuple iranien qu'il n'est pas seul, que nous sommes à ses côtés, ici à Paris comme ailleurs, dans ce combat qui est aussi le nôtre, ce combat contre les Mollahs qui est aussi le nôtre, avec toute notre amitié, toute notre solidarité. Vous savez, rappelons à nos auditeurs, Pierre, que tant de nos amis iraniens, tant de nos amis de la diaspora iranienne étaient avec nous pendant les deux années terribles que nous avons vécues après le 7 octobre, étaient avec nous chaque semaine, place du Trocadéro à Paris, pour demander la libération des otages du Hamas à Gaza. Ces mêmes terroristes du Hamas, rappelons-le, qui sont des proxys des Mollahs iraniens, qui sont armés par les Mollahs iraniens. Donc vraiment, ils étaient avec nous. Nous devons être avec eux aujourd'hui. C'est un juste retour de choses. Ce qui est étonnant, en revanche, voire choquant, Pierre, c'est la très faible couverture médiatique en France de ce qui se passe actuellement en Iran et de ses enjeux. On parle beaucoup depuis quelques jours de la neige qui tombe, on parle beaucoup des bouchons sur les routes franciliennes que cela entraîne, mais on parle très peu de ce mouvement pourtant si important. Et vous savez, j'ai envie de dire, l'histoire retiendra, au-delà de ce mouvement historique qui est en train de se passer, l'histoire retiendra aussi ce silence assourdissant de beaucoup de médias qui préfèrent fermer les yeux. Par lâcheté, par désintérêt, qu'importe. En tout cas, nous ici à Paris, nous devons garder les yeux ouverts sur l'Iran, sur le peuple iranien, et notre soutien doit être sans faille, évidemment. Ce régime criminel et terroriste des Mollahs doit et va tomber. C'est la marche de l'histoire. Ce régime doit et va tomber. La liberté doit et va l'emporter, comme toujours, sur l'islamisme, sur le terrorisme islamiste, sur les régimes islamistes, en Iran comme partout dans le monde. Et pour finir, Pierre, Rappelons quand même qu'aujourd'hui, c'est une date anniversaire, puisque nous commémorons avec beaucoup de tristesse les 11 ans aujourd'hui des attentats de Paris de janvier 2015. C'était Charlie, c'était l'hypercacher, c'est tout ce qui a suivi. Nous célébrons ces 11 ans aujourd'hui et nous commémorons avec beaucoup de mémoire, de peine et de tristesse ces 11 ans. Mais ces attentats, c'était déjà des attentats islamistes. C'était des attentats de cette mouvance islamiste qui s'en prend au monde entier, à la liberté, à nos valeurs, évidemment aux juifs, à Israël, on l'a vu malheureusement depuis. Donc vraiment, ce qui se passe en Iran aujourd'hui est quelque chose qui peut changer la donne. Nous devons les soutenir, nous devons être présents, nous devons garder les yeux ouverts et nous les garderons.
Autre sujet d'actualité, le dictateur vénézuélien Nicolas Maduro, qui est en prison aux États-Unis depuis le week-end dernier. Il est entre autres accusé d'être un narcotrafiquant selon Washington. Si la plupart des représentants de la classe politique française ont salué la fin du régime de l'homme autoritaire qualifié de dictateur par son opposition, une partie de la gauche a refusé de le qualifier ainsi, et c'est le cas notamment de la France insoumise qui a multiplié les appels à la libération de Nicolas Maduro, une demande considérée comme inqualifiable par le gouvernement. Hier, sur BFM, Mathilde Panot, toujours de LFI, n'a pas voulu répondre à la question de la qualification de dictateur concernant Maduro. Elle a refusé d'ailleurs de répondre à la question, tout comme LFI avait refusé de qualifier le Hamas de terroriste. Bref, c'est, et comme c'est souvent le cas, Charlie Hebdo qui résume bien la situation de LFI avec sa caricature de couverture qui déplaît fortement aux mélenchonistes, et pour cause. On y voit leur figure de proue, Jean-Luc Mélenchon, représenté sous les traits du président vénézuélien déchu, le visage dissimulé par des lunettes et un casque anti-bruit, vêtu d'un survêtement d'une célèbre marque américaine, les mains melottées, et sur son bras gauche, le brassard frappé du sigle LFI en légende. Le dessinateur Slash écrit sur un ton ironique à l'adresse du locataire de la Maison Blanche: Trump ne t'arrête pas en si bon chemin.
Oui, vous voyez, Pierre, ce qui est terrible et ironique dans l'histoire qui est en train de s'écrire avec ce début d'année 2026, c'est que pendant qu'un peuple, le peuple iranien, se bat contre l'islamisme, se bat pour la liberté, pour la paix dans le monde, nous avons toujours en France nos idiots utiles de la haine, nos idiots utiles de l'islamisme, que sont LFI, qui, eux, restent sur leur logiciel détestable. Ils ne comprennent pas l'histoire qui est en train de se mettre en place. Vous savez, quand on entend Mathilde Panot refuser de dire que Maduro est un dictateur en direct sur une grande chaîne de télévision, ça nous rappelle son parti, LFI, qui, depuis le 7 octobre, pour beaucoup d'entre eux, refusait de nommer le Hamas une organisation terroriste. En fait, si on réfléchit bien, LFI ne nomme jamais le mal. LFI ne nomme jamais le mal parce que LFI est en réalité le porte-voix, le complice, pour mieux diffuser sa haine et son chaos. LFI est le complice de ce mal, sinon il le nommerait, il ne le nomme jamais. Rappelons-nous ce qui se passait en Syrie, rappelons-nous évidemment les liens avec la Russie et Poutine, évidemment le Hamas le 7 octobre, et maintenant Maduro. En fait, ces gens-là n'aiment pas nos valeurs, ces gens-là n'aiment pas notre modèle de société, de liberté et de démocratie, et finalement ces gens-là ne se sentent bien que dans la défense des dictateurs les plus sanguinaires. C'était vrai avec Bachar al-Assad, avec Poutine, avec bien sûr le Hamas, avec le Hezbollah, maintenant avec Maduro. Parce que qu'est-ce qui s'est passé au Venezuela?
Ou avec l'Algérie. Hein.
Ou avec l'Algérie, rappelons Rima Hassan qui parlait d'Alger comme la Mecque de la liberté. Rappelons, nous aurions tellement d'exemples, Pierre.
Alors que Boualem Sansal était en prison.
Évidemment. Vous savez, le problème de la fille, c'est qu'ils sont toujours, systématiquement, du mauvais côté de l'histoire. Toujours. Parce que qu'est-ce qui se passe avec Maduro et le Venezuela? Certes, on peut discuter de la méthode de son arrestation, de la méthode utilisée par les États-Unis. On peut en discuter. Mais au-delà de ça, le plus important n'est pas là. Au-delà de ça, c'est que Maduro est un dictateur sanguinaire qui a opprimé son peuple pendant des années et des années. Le peuple vénézuélien est descendu dans la rue pour célébrer cette arrestation. LFI n'est pas descendu dans la rue. LFI est descendu dans la rue pour demander que Maduro revienne au Venezuela. Non, mais vous vous rendez compte, ces gens-là sont toujours du mauvais côté de l'histoire. Ils ne comprennent pas où est le bien. Ils ne comprennent pas où est le sens de la liberté et de la justice et le sens de l'histoire. Et vraiment, être aussi gêné, on en était presque gêné pour elle. J'avais vu la séquence en direct sur BFM que vous avez mentionné, Pierre. J'en étais gêné pour elle. Voir cette femme, cette leader de LFI, après trois questions de la journaliste Apolline de Malherbe, refuser de qualifier Maduro de dictateur, s'en dit long sur cette dérive, sur ce qu'est devenu ce parti, sur ce que c'est devenu cette meute. Ne pas pouvoir dire que Maduro est un dictateur, c'est la même chose que de ne pas pouvoir dire que le Hamas est une organisation terroriste. C'est ne pas nommer le mal parce qu'on en est complice.
Et vous savez ce qui est le plus surprenant, ça serait une question à poser à LFI. LFI prône et se veut le chantre, le champion de la défense du peuple. Le peuple, pouvoir par le peuple. Et quand les peuples se soulèvent contre leurs dirigeants, eh ben LFI ne soutient jamais les peuples, mais toujours les dirigeants. C'est assez surprenant quand même, parce que le discours qu'on a en France de LFI concernant le peuple français, c'est le peuple, son pouvoir, etc. Mais si demain le peuple se soulève, il va être du côté toujours de ceux qui gouvernent, jamais du peuple.
Mais évidemment, LFI n'est pas du côté des peuples qui souffrent. LFI est du côté de leurs dirigeants autoritaires, sanguinaires, parce que ces gens-là incarnent un modèle de société de haine et de chaos porté précisément par LFI. On n'a pas entendu Rima Hassan, on n'a pas entendu Mélenchon Porte ou d'autres proposer des flottilles pour aller en Iran aider le peuple iranien. On n'a pas entendu Rima Hassan, Porte ou Mélenchon proposer des flottilles pour aller aider le peuple vénézuélien à se libérer de son dictateur sanguinaire. Non, on les entend par contre dire que Maduro n'est pas un dictateur et qu'il faut qu'il soit rendu au Venezuela. C'est une honte absolue. Une honte absolue.
Alors, j'aimerais qu'on dise un mot sur l'Espagne pour finir, et qui est un peu en lien direct avec Maduro, mais pas seulement. Le grand quotidien espagnol El País s'est retrouvé sous les feux des critiques hier après avoir publié un article sur le juge fédéral américain Alvin Ellerstein, qui juge Nicolas Maduro. Et le journal décrit le magistrat désigné pour présider le procès de Maduro comme impartial malgré son appartenance à la communauté juive, une formulation jugée antisémite par de nombreux observateurs. Finalement, Philippe Meyer, l'Espagne a un vrai problème avec les juifs et rien n'a changé depuis 1492. Hein.
Alors, avant d'arriver à 1492, juste rappeler une chose, au-delà de l'Espagne, c'est qu'effectivement, Maduro, et je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais Maduro, par son narcotrafic, par son blanchiment d'argent sale, par toutes ces pratiques qui sont les siennes depuis des années, des décennies, Maduro est également un bailleur de fonds du terrorisme mondial. Et on sait les liens qu'il y a, notamment entre Khamenei en Iran et Maduro. Ceci explique aussi peut-être...
Et même avec le Hezbollah, très présent au Venezuela.
Il y a des liens évidents entre le narcotrafic et le financement de l'islamisme radical, on le sait, c'est documenté, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses là-dessus. Maduro en est un exemple, il y en a d'autres. Et finalement, tous ceux qui aujourd'hui ont parlé de LFI tout à l'heure, mais pour revenir à l'Espagne, tous ceux qui aujourd'hui ont finalement une espèce de gêne à se réjouir de ce qui se passe pour ce dictateur, finalement ont également un problème avec l'islamisme et son financement. C'est une évidence. Alors maintenant, l'Espagne antisémite, écoutez, j'ai envie de vous dire, Pierre, rien de neuf sous le soleil.
Pedro Sanchez est vent debout. Hein, depuis le 7 octobre, vraiment, dans
voit,
toute
on
l'Europe,
voit,
c'est...
Comme vous le dites, absolument, c'est comme lui, vous le dites, hein. Pierre, depuis le 7 octobre, on voit un certain nombre de pays européens. C'est vrai avec l'Espagne, c'est vrai avec d'autres, c'est vrai aussi avec des pays d'Europe du Nord. C'est ce qui s'est passé au Danemark, en Norvège et ailleurs. On voit un certain nombre de pays européens qui ont pris fait et cause pour la cause palestinienne dans ce qui pourrait en soi être un combat politique. Mais au lieu de s'arrêter là, ça va bien au-delà. C'est de l'antisionisme militant, politique, sous couvert évidemment d'un antisémitisme à peine caché. Et on voit cela en Espagne. Alors, régulièrement, on voit des rassemblements, des manifestations extrêmement violentes, extrêmement. Rappelons-nous quand même, avant le drame qui s'est passé en Australie, pour aller plus loin que l'Espagne, il y a quelques semaines, le premier soir de Hanouka, ça faisait suite à des semaines, des mois de manifestations violentes. On sait où tout cela mène, ce qui s'est passé en Espagne depuis le 7 octobre. Et évidemment, extrêmement préoccupant, extrêmement grave, et de voir qu'aujourd'hui, dans les faits que vous relatez, Pierre, on est plusieurs semaines, plusieurs mois après la cessation du conflit entre Israël et le Hamas. Les armes, pour l'instant, ne parlent plus, et pourtant, les antisémites, eux, continuent de parler. Et on le disait, Pierre, à cette antenne, pendant 2 ans. Mmh. Ce n'est pas uniquement lié au conflit. Évidemment que c'était le détonateur de ce tsunami antisémite. Mais derrière, il y a bien autre chose. Il y a une haine viscérale. L'Espagne en est un des porte-voix en Europe avec d'autres. Cet événement-là ne fait que le refléter et l'illustrer. Et tout cela ne doit faire illustrer que notre volonté soit forte pour combattre cet antisémitisme partout, en France évidemment, mais en Europe et dans le monde, parce que ceux qui sont derrière cette haine antisioniste et cette haine contre Israël, évidemment on le voit bien, c'est ce que vous avez mentionné, très vite, il ne faut pas gratter très longtemps, très vite il y a la haine anti-juive derrière, très vite. Et ça, ce n'est pas acceptable. L'Europe, qui est déjà le plus grand cimetière juif historique au monde, l'Europe ne peut pas retomber dans ce travers-là. L'Europe ne pourra pas se construire, se bâtir, exister, être pérenne sur un fondement de haine des Juifs. L'Europe a une histoire singulière avec les Juifs, quelquefois formidable, quelquefois tragique et au-delà. L'Europe ne peut pas se construire là-dessus. Et quand des pays importants européens, comme l'Espagne ou d'autres, continuent de faire état de cette haine antisémite, couvert d'un combat politique qui ne dupe personne, eh bien, cette Europe-là ne peut pas exister en l'état. Il faut que ce cancer de l'antisémitisme en Europe soit traité. Tant que ce ne sera pas le cas, l'Europe ne pourra pas être l'exemple qu'elle prétend être à travers le monde.
Philippe Meyer, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom. Je rappelle que vous êtes le président du Bnei Brit France. Bonsoir.
Bonsoir, Pierre Grandis.